Alors, merci à tout le groupe de louanges. Si vous voulez prendre la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, on poursuit l'étude, l'exposition de la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. On est rendu au chapitre 11. L'été arrive. On approche la moitié de l'année. Puis on est rendu justement à la moitié du livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas nécessairement chronologiquement qu'on est rendu à moitié de l'Apocalypse, mais on est, si on regarde en proportion des chapitres, on est rendu au 11e chapitre, il y a 22 chapitres. Mais chronologiquement, on est un petit peu plus loin dans l'Apocalypse. On est rendu à la 7e trompette. Alors, on lit chapitre 11, au verset 15. « Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. » Et il règnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre, une forte grêle. » On va prier. Notre Dieu, on appelle ta bénédiction sur ce temps. On est reconnaissant de ce qu'on peut ouvrir ta parole librement ici. Puisses-tu bénir chacun d'entre nous, Seigneur, au travers de ta parole. Dispose nos cœurs, être attentifs. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je disais, on est rendu à la 7e trompette. Et puis, je vais devoir couper un peu sur le message. Puis, je ne suis pas fort sur la coupure. Pour moi, je n'aurais pas été bon dans le gouvernement pour couper. Mais... on va faire un petit rappel, si vous voulez bien. Alors, on a vu dans le chapitre 6 et 7, antérieurement, il y a eu l'ouverture des six premiers sceaux. C'est l'agneau qui était seul digne, on se rappelle, d'ouvrir ses sceaux. Ensuite, on a eu le septième, il y a eu les six premiers sceaux qui ont été ouverts. Puis, au chapitre 8 est arrivé l'ouverture du septième sceau. Il y a eu un silence d'une demi-heure dans le ciel. Ensuite, du septième sceau est arrivé sept trompettes. Et de la septième trompette, des sept trompettes, la dernière, la septième, suivent sept coupes de jugement. On se souvient aussi que les trois dernières trompettes sont trois malheurs. Trois malheurs. Premier malheur, on se souvient, il y a une armée de démons qui a été libérée pour tourmenter les hommes sans les tuer. Deuxième malheur, Apocalypse chapitre 9, libération d'encore une plus nombreuse armée, on dit 200 millions de démons qui se trouvaient sur le grand fleuve d'Euphrate, qui ont été déliés pour tuer le tiers des hommes par trois fléaux qui sont décrits aussi au verset 18. Puis, on est arrivé au chapitre 10, où il y a eu l'ange puissant, le petit livre. Il y a eu sept tonnerres qui ont été scellés, pas dévoilés. Et une annonce importante au chapitre 10, verset 7, lorsque le septième ange, il est dit, lorsque le septième ange sonnera de la trompette, le mystère de Dieu va s'accomplir. Aussi, on se souvient, c'est le dernier message qui a porté sur l'Apocalypse, donné par Doug, il y a eu les deux témoins. Les deux témoins de Dieu qui ont prêché l'Évangile du royaume vers la fin de la période de tribulation. Deux instruments choisis de Dieu pour la conversion d'Israël. Deux témoins qui ont été tués, on se souvient, et dont leurs cadavres ont été laissés pendant trois jours et demi sur la place publique de la grande ville, là même où leur Seigneur a été crucifié. Puis on se souvient que Trois jours et demi par après, un esprit de vie venant de Dieu les a ressuscités. On se souvient de l'appel « Montez ici », un enlèvement particulier de ces deux témoins, à la vue de leur ennemi. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Un tremblement de terre. Il s'en est suivi 7000 morts. 7000 hommes morts furent tués. Et le reste effrayé donna gloire à Dieu. Et nous sommes rendus maintenant à la septième trompette. Avec elle va venir maintenant un temps qui va englober la réalisation finale de tout le plan rédempteur de Dieu. C'est, on peut dire, le point culminant du jugement de Dieu. Les premières trompettes ont déclenché des jugements qui ont été redoutables. Puis comme je mentionnais tantôt, il y en a eu deux, la cinquième et sixième trompettes qui ont été des malheurs, qui ont été plus grands que les premières. Mais maintenant, on voit le septième appel des jugements encore plus redoutables, les plus terribles que la terre a jamais connus. Et même si cette trompette-là sonne au verset 15, les jugements qui sont associés suite à son appel ne seront pas décrits, vous allez voir, avant le chapitre 15. Parce que les chapitres 12 et 14 sont comme un répit donné par Dieu, comme pour donner à son peuple... Non, excusez. Le chapitre 12 et 14 sont un bref répit, oui, mais en même temps, on revient au début de la tribulation, à chapitre 12 et 14, pour parler de l'Antéchrist et de sa carrière. Le son de cette trompette-là retentit donc jusqu'au reste du livre, jusqu'au chapitre 20, jusqu'à l'établissement du royaume de Christ. Donc, cette septième trompette appelle sept coupes de jugement qui sont décrites donc plus loin. Il y a comme un effet, vous remarquerez, télescopique. Le septième sceau est venu sept trompettes du septième sceau. Au son de la septième trompette suivent sept coupes de la colère de Dieu. Donc, on est rendu à un moment crucial de l'histoire vers la fin de la période de tribulation, au septième sceau, septième trompette. Trompette de destruction. Trompette qui va nous mener jusqu'à la bataille d'Armageddon, en passant par les sept fléaux décrits au chapitre 15 et 16. Mais ici, il ne faudrait pas confondre la septième trompette, qui se trouve être la dernière des sept, avec celle décrite par Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, 52, qui, elle, parle de l'enlèvement de l'Église, où il est écrit de celle-ci, « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous ne serons changés. » Ici, cette trompette-ci, c'est une trompette de jugement sur les impies, dont il est question dans l'Ancien Testament, dans Joël chapitre 2, verset 1. Et elle dure, elle se prolonge. L'ange qui souffle, il y a du souffle jusqu'au 20e chapitre. Cette septième trompette fait suite aussi à une pause. Il y a un interlude, c'est ça, je me suis trompé tantôt, je me suis mêlé. Suivi de la sixième trompette, il y a une période de répit donnée par Dieu. Entre Apocalypse 10, chapitre 1, chapitre 10, verset 1, jusqu'à Apocalypse, chapitre 11. Et c'est la même chose, vous remarquerez, à chacun des événements, entre le sixième et septième événement, entre le sixième sceau, septième sceau, entre la sixième trompette, la septième trompette, entre la sixième coupe et la septième coupe, il y a toujours une pause, un interlude, un genre d'interlude. Un peu comme pour Dieu qui veut réconforter, encourager les croyants qui sont témoins, qui vivent cette tribulation-là, ces jugements effroyables, dont ils sont à les encourager, à persévérer, à garder le courage, dans le but de les rassurer. Aussi que Dieu ne les a pas oubliés. Et Dieu leur apporte donc un temps de réconfort. La septième trompette n'est pas seulement aussi une trompette de jugement, c'est aussi une trompette qui annonce le couronnement du roi des rois et de l'établissement de son royaume. Et c'est comme c'était le cas aussi dans l'Ancien Testament, on trouve ça, la trompette qui annonce l'établissement, la couronnement d'un roi. On se souvient, entre autres, de Salomon dans 1er Roi, chapitre 1, verset 39. C'est la même chose pour Jéhu. La trompette a une signification, une utilisation pour le peuple d'Israël tout le long de l'Ancien Testament pour toutes sortes d'occasions. Et ici, elle est la réponse de Dieu à la prière des saints. Que ton règne vienne. On est rendu à ce moment-là. Elle marque donc des actions qui vont se mener jusqu'à l'accomplissement justement du mystère de Dieu, de l'établissement du royaume de Dieu. Et ce qu'on a lu au chapitre 10, verset 7, de ce qu'on a lu au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes, eh bien oui, on va le vivre. C'est une annonce de victoire. Sur qui? Sur la bête. Et l'image qu'on va voir ce matin, là, c'est un peu tiré de la vision de Daniel, de la bête. C'est un changement radical de gouvernement qui va se tenir, là, qui va avoir lieu sur la terre. La bête va être supplantée. On sait que c'est une image, c'est pas comme ça. En réalité, on parle de gouvernement humain. Mais c'est un peu pour dire que le mot bête est utilisé par Dieu tout au long de la Bible en parlant des gouvernements humains. Saviez-vous ça? Et c'est justement dans le chapitre 7, tiré du chapitre 7 de Daniel, qu'on voit cette image-là d'un ours, de bêtes sauvages, de quatre bêtes sauvages, un lion, un ours, un léopard, un quatrième animal qu'on voit peut-être qu'on ne distingue pas, qui est terrible, épouvantable, et qui parle justement de la bête dont il est question dans l'Apocalypse. Donc, un changement radical. La bête va être supplantée par le roi des rois. Mais même si la septième trompette n'a pas d'effet, n'est pas décrite tout de suite, pas avant le chapitre numéro 15, cependant, il y a un effet immédiat. Il y a une réponse immédiate qu'on voit dans le ciel, une réaction. Dès que sonne la septième trompette, il y a une joie qui déborde, une joie débordante dans l'expectative de ce qui va suivre. Il y a dans le ciel de fortes voix, un concert de voix, des cris, des chants. Vous connaissez sûrement le Messie de Handel, qui est tiré de ces passages-là. J'aurais aimé faire jouer ces passages-là. Le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. Donc, c'est l'annonce de la fin du pouvoir du tyran, de Satan. Et donc, la septième trompette, ça annonce la proclamation du roi des rois. Qu'est-ce qu'il y a comme résultat? C'est merveilleux, cette réaction au ciel. C'est merveilleux, mais en même temps, savez-vous, c'est tragique. C'est tragique parce que, dans le sens que ça aurait été souhaitable aussi qu'il y ait aussi des fortes voix qui viennent de la terre. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Le ciel sait ce qui va arriver. Il sait la fin des choses, mais la terre ne le sait pas. La terre ne sait pas ce qui lui pend au bout du nez. Puis de toute façon, on dirait que la terre n'est pas intéressée de savoir ce qui lui pend au bout du nez. Donc, il y a les fortes voix du ciel. Et puis, en passant, on a tous expérimenté ça, hein, d'annoncer la parole de Dieu, de parler du Seigneur Jésus, des proches, des amis, des gens qu'on aime, et ils ne sont pas intéressés. Ça ne m'intéresse pas. Pour tout de suite, ça ne m'intéresse pas. Parle-moi pas de ça. Les gens se croient bons. Tantôt, on parlait que le Seigneur a traversé les cieux. Les gens se croient bons. À quoi comparer la bonté de l'homme? Je comparerais ça à un canot. Un canot, c'est une embarcation qui est conçue pour les plans d'eau calme, hein? Un lac, des rivières, aller à la pêche. On peut faire de la compétition en canot, faire des courses sur ces étangs-là. Mais ce n'est pas fait pour aller sur la mer, un canot. Personne ne va pouvoir prendre le canot pour traverser l'Atlantique, faire la traversée Canada-France, mettons exemple pour le Québec 400e, là. Ça ne traversera pas en canot. Vous prendriez le meilleur canotier au monde puis vous donneriez le meilleur canot qui a jamais été conçu sur la Terre. Il ne réussira pas à traverser l'Atlantique en canot. C'est la même chose pour l'homme, pour le cœur de l'homme. Il est corrompu, méchant. Il ne sera jamais assez bon pour passer de la mort à la vie par lui-même, de la terre au ciel. Même qu'on prendrait le meilleur homme, la meilleure connaissance, la personne que vous connaissez, la meilleure que vous avez connue, qui a jamais eu sur la terre, à part Jésus, qui est Dieu fait homme, elle ne pourra jamais passer de la mort à la vie, de la terre au ciel par sa propre bonté. Mais en revenant au ciel, il y a ces expressions de joie indescriptibles au fait que justement la puissance de Satan va être annihilée par Jésus-Christ de façon souveraine. Et Jésus va établir son royaume. Quelle joie! Quelle joie de savoir ça, de cette certitude. Le monde cherche la joie sans Dieu, c'est temporaire. On a tout expérimenté ça. Mais quand on a la paix de Dieu, on a une joie qui est durable. Le royaume est écrit au verset 10, au chapitre, c'est-à-dire à l'Apocalypse chapitre 11. Le royaume, vous remarquerez, il est écrit au singulier. Il n'est pas marqué au pluriel. Ça nous enseigne une vérité qui est importante ici. C'est que quoi que le monde est divisé politiquement, socialement, linguistiquement, par leurs traditions aussi, par leurs coutumes, divisé, séparé géographiquement, être aux antipodes, bien, tous les divers groupes peuplant le monde font en réalité partie d'un seul royaume, soumis à un seul roi, Satan. Il a toujours d'ailleurs voulu unir le monde. Il a toujours voulu que la planète soit un village global. Souvenons-nous de la tour de Babel. Et Jésus a dit, son royaume subsiste jusqu'à ce jour. Mais maintenant va avoir lieu le jugement du prince de ce monde. Il va être jeté dehors. Jésus a dit, ni plus ni moins, que Satan, c'était l'usurpateur. C'était le roi illégitime. Et trois fois, Jésus, dans l'Évangile de Jean, appelle Satan le prince de ce monde. Il y a aussi d'autres noms pour Satan. Il est mentionné dans la parole de Dieu. Le Dieu de ce monde qui contrôle justement la pensée, la philosophie du monde. On voit ça dans 2 Corinthiens. Le prince de la puissance de l'air qui contrôle les incroyants de façon générale. Le prince de ce monde qui règne aussi sur ce système du monde. Les rois se sont soulevés, dit Actes chapitre 4, verset 26. Les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Pas de joie sur la terre. C'est normal parce qu'ils sont gouvernés par le prince de ce monde. Ils font partie du royaume de l'adversaire. Et pourtant, Dieu a institué les autorités humaines pour le bien-être de l'homme, mais ces autorités-là n'ont pas voulu se soumettre à Dieu. Et donc, la parole de Dieu et ses versets nous montrent, ce royaume est remis. Il est remis. Et on voit ce verbe « est remis ». Pourtant, c'est un événement qui va avoir lieu dans le futur, mais il est écrit « est remis » comme s'il a déjà été, c'est déjà fait. Et le ciel, justement, se réjouit comme si, justement, le temps attendu est déjà arrivé. Le royaume est établi. Et quand il est écrit cela, que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, parce qu'on sait que dans le Nouveau Testament, souvent, lorsqu'il fait allusion au Seigneur, on parle du Seigneur Jésus, mais ici, c'est qu'il est remis à Dieu le Père et à Dieu le Fils, dans leur égalité. Et Christ règnera pour les siècles des siècles. Une autre réaction dans le ciel, un groupe particulier que Jean note, qui offre des louanges, ce sont les 24 vieillards, qui sont assis sur leur trône devant Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Ils se prosternèrent sur leur face. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. On voit aussi les 24 vieillards qui posent la même action, même position dans Apocalypse chapitre 5, verset 8, aussi dans verset 14 et Apocalypse chapitre 7. Aussi dans Apocalypse chapitre 19, on les voit dans la même position. Alors, ils adorent Dieu. Une action du cœur, reconnaissant envers la fidélité de Dieu. Ces anciens-là, ces vieillards-là, sont des représentants de l'Église rachetée, de nous, enlevés déjà et glorifiés. Et ça fait un bout de temps qu'ils attendent justement que Christ établisse son royaume. Et ils disent, nous te rendons grâce dans leur louange. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Tout ça pour le bonheur de voir, avec le bonheur de voir que leur prière est exaucée. Et dans leur louange, je me souviens qu'il y a trois attributs de Dieu qui est mentionné. Premièrement, sa toute-puissance, son omnipotence. Et lorsqu'il est question de Dieu tout-puissant, vous remarquerez que dans le Nouveau Testament, 9 fois sur 10, il est mentionné la toute-puissance de Dieu dans Apocalypse. 9 fois sur 10. Déjà dans l'Ancien Testament, dans Genèse, au chapitre 17, verset 1, à Abraham, il avait mentionné « Je suis », il avait dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Il s'était révélé. Job avait dit « Je reconnais que tu peux tout ». Il y a le psaume, sans tourner, le psaume 135, qui a une très belle définition de sa puissance. Il est écrit « Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre. » Il exerce, il accomplit sa volonté par son irrésistible puissance. Hein, il y a bien des choses que les gens, que le monde voudrait faire, mais que ne peuvent pas faire, sont limitées. Et il y a des choses aussi, en passant, que Dieu ne fera jamais. Il est bien dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Il ne fera rien qui est contraire à sa volonté, contraire à sa sainteté. Il ne peut se renier lui-même, ne peut pécher. Il ne peut tenter personne et tenté par le péché. Il ne peut rien faire aussi d'absurde. Mais rien n'est impossible à Dieu quand ce n'est pas contre sa volonté. Sa puissance n'est pas mesurable. Aussi, il y a l'expression « qui est, qui était », qui exprime son éternité, le Dieu éternel, le Dieu qui vit, qui n'a pas de commencement ni de fin. Psaume 90, c'est écrit « d'éternité en éternité, tu es Dieu ». Il est aussi question de l'éternité, de Dieu éternel dans l'Apocalypse. Au chapitre 1, il mentionne qui est, qui était et qui vient. Et ici, il n'est pas mentionné qui est, qui était, parce que c'est comme s'il est déjà venu pour eux. Il est venu, le règne de Christ, pour l'Église à ce moment-là. Et aussi, c'est ça que les vieillards font, ils louent le Seigneur pour ça. Et aussi, un autre attribut, c'est qu'ils louent la souveraineté de Dieu, le Dieu souverain. Lorsqu'ils disent « Tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Tu as saisi dans le sens qu'il a décidé du moment. On a parlé de la souveraineté de Dieu ce matin. On en a fait allusion au repas du Seigneur. Il a décidé de la façon de prendre ce qui lui revient, du temps. Et ça veut dire qu'il a toujours été en contrôle. On se souvient, Satan avait tenté Jésus, à Luc chapitre 4, lui avait montré en un instant tous les royaumes de la terre, puis lui avait dit, « Je te donnerai toute cette puissance, toute la gloire de ces royaumes qui m'ont été donnés. Je le donne à qui il veut, à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Et Jésus lui avait répondu quoi? « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Or Jésus, en tant que souverain, il s'apprête là à prendre le pouvoir en son temps, à sa façon et selon ses propres conditions à lui. Il fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Il y a une réaction sur la terre. Verset 18. « Pendant que les cieux acclament, la terre, on pourrait dire, panique. » Il dit « Les nations sont irritées. » Cette septième trompette, elle révèle que les nations qui sont rebelles, ils sont enragés du fait que Christ va établir son règne sur la terre. Ils se sont irrités. Et ça ne révèle pas ici une hostilité passagère, une émotion momentanée. Ça révèle plutôt une hostilité qui est ancrée dans le cœur des nations. Un ressentiment qui est profondément établi, une grande hostilité envers Dieu. Et puis même, éventuellement, on va voir ensemble plus tard dans le livre, ça va mener toutes les nations à s'unir pour combattre contre le roi des rois. Mais à leur perte, gloire à Dieu. C'est rien de nouveau. Rien de nouveau, on n'a seulement qu'à lire le psaume 2, et sans tourner, entre autres, il est écrit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et se liguent-ils avec eux? Les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? » Et au verset 7 du psaume 2, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Psaume messianique, qui ressemble, entre autres, beaucoup au passage de ce matin. on pourrait s'attendre à ce que les jugements qui viennent feraient en sorte que les gens se détournent de leur péché puis se soumettent à Dieu, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se produit. Parce que pour la plupart d'eux, ils refusent de se repentir. À la place, leur cœur s'endurcisse. Et ce n'est pas nouveau. Vous lirez le chapitre 2 de Romains, il y en est question. La bonté de Dieu devrait pousser au repentir, le monde impie. Mais ce monde impie va atteindre un point de non-retour. Et Dieu s'apprête à déverser sa colère sur le monde impie dans l'Apocalypse. Même, on voit plus loin, chapitre 16, versets 9 à 11, après la quatrième coupe, où il y a eu où les hommes ont été brûlés par la grande chaleur et par le feu, il est écrit, ils blasphémèrent le nom de Dieu après ça. Ils ne se repentirent pas pour leur donner gloire. Et on voit ça aussi à d'autres reprises. Et comme je disais tantôt, l'ultime point, le point le plus élevé d'irritation de les des nations va être atteint lorsqu'ils vont s'assembler ensemble pour combattre le Christ sur les plaines d'Armageddon. Et à Armageddon, il n'y aura plus de salut. Il n'y aura pas de salut à Armageddon. Mais désespérément, ils vont tenter de vaincre le Sauveur, le Roi des rois. Maintenant, il est écrit aussi dans le verset 18, « Et ta colère est venue. » Il y a un temps venu pour la colère de Dieu. Dieu est patient, mais sa patience fait place, à un moment donné, au jugement. Et les anciens reconnaissent en Dieu un Dieu qui est juste, qui exerce et qui va exercer sa justice. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Comme il l'avait annoncé par les prophètes, la venue de la colère de Dieu, elle est certaine. Si certaine qu'on peut en parler, qu'ils en parlent comme si elle était déjà arrivée. Alors, ceux qui croient qu'un Dieu d'amour ne peut pas déverser sa colère se trompent. Ils ont une fausse espérance. Dieu, un jour, va juger les incroyants. Et c'est un thème qu'on trouve constamment dans la parole de Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament, les prophètes Ésaïe, chapitre 24, ou chapitre 30, où il est mentionné, sa colère est ardente, c'est un violent incendie. Il va cribler les nations avec un crible de destruction. On voit ça aussi dans Ézéchiel, chapitre 38. Dans les psaumes aussi, on retrouve ce thème-là, où Dieu va appliquer sa justice. Sa justice va s'appliquer. Un temps pour juger. Non seulement qu'il y a la colère de Dieu, donc, mais est venu pour Dieu le temps de juger les morts. Les morts jugés doivent être jugés. Et ici, ça n'a pas référence à une occasion, un événement particulier, mais plutôt ici, c'est l'occasion aussi donc une question de jugement dans le sens général. Ce n'est pas seulement que le jugement dernier ici. Il y aura le jugement des nations qui va venir avant, où les brebis vont être séparées des boucs, les incroyants des croyants. Il y a une distinction ici à faire, c'est de façon générale. Matthieu 25 en parle, chapitre 25, verset 31-46. « Dieu a fixé un jour où il va juger le monde par celui qu'il a désigné et qui a ressuscité des morts. » Il y a aussi un temps de récompense. Temps de récompense. Le jugement, donc, sera aussi un temps de récompense pour les serviteurs de Dieu, les prophètes, les saints, verset 18, et ceux qui craignent son nom. Alors, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. C'est lui qui a la force, qui donne la force de le servir. On n'a pas en tant que tel nous-mêmes cette force. C'est Dieu qui la donne. C'est un don de sa grâce. Et on est encouragé à œuvrer justement en vue des récompenses que Dieu promet. Jésus dit, hein, « Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi » au chapitre 22. Il va venir, il va rendre à chacun selon ses œuvres. Jésus s'apprête à prendre possession du royaume qui a été préparé pour lui depuis la fondation du monde. Et dans le numéro 23, « Il y a des couronnes de promises. Hein? Les couronnes de la justice, 2 Timothée le mentionne. 1 Pierre, couronne de vie, couronne de gloire. 1 Pierre, Apocalypse, couronne de vie. Il y a des couronnes pour les serviteurs, les prophètes. Tous ceux qui ont annoncé d'avance, qui étaient pour venir, guidés par et inspirés par l'Esprit de Dieu, vont être récompensés d'avoir proclamé la vérité au travers de l'histoire. Il y a Moïse, de Moïse jusqu'aux deux témoins d'Apocalypse chapitre 11. Et le temps est venu pour eux donc de recevoir récompense. Récompense de prophètes aussi, tel qu'il est mentionné à Matthieu chapitre 10. Il y a un autre groupe qui va être récompensé, ce sont les saints. Ceux qui sont définis par le terme « ceux qui craignent ton nom » dans le verset qu'on regarde ensemble. Psaume 34, verset 9, est écrit « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge envers ceux qui le craignent. » Luc chapitre 1, verset 50. C'est tous ceux qui ont été mis à part pour Dieu. En fait, tous les saints de Dieu, tous ceux qui, les petits comme les grands, ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, ceux qui ont aussi passé et qui passaient par la tribulation, ceux qui sont morts de la tribulation et qui vont être récompensés. Et il y a un temps de destruction. Donc, il y a un jugement qui implique destruction de ceux qui détruisent la terre. Ça ne s'adresse pas aux gens qui polluent la terre, l'environnement comme tel, mais c'est plutôt ceux, ça s'adresse à ceux qui polluent la terre par leur péché ici. Ça inclut tous les incroyants. Et spécialement dans le contexte qu'on lit ici, c'est le faux système, tous ceux qui énergisent ce faux système économique, en passant par la bête, l'antéchrist, le pouvoir religieux, le faux système, Satan lui-même. Déjà, Paul, on se souvient, à l'époque de l'Église, dans 2 Thessaloniciens, il avait mentionné que le mystère de l'iniquité agit déjà à ce moment-là. Mais dans la période de la tribulation, c'est à ce moment-là que l'iniquité va être à son comble et que les activités destructives vont être au plus fort, détruisant toute la société. Il va y avoir un chaos, une anarchie, un désordre. L'homme, dès le début, s'étant vu donner la domination sur la terre, a chuté. Il est tombé dans le péché et suite à ça, durant toute l'histoire, l'homme s'est corrompu et corrompu. Il est écrit aussi, « La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. » pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et quand est-ce que ça va avoir lieu, là? Lorsque la corruption sera à son comble, Dieu va intervenir, Dieu va détruire ceux qui détruisent la terre. Ensuite, il va créer une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Apocalypse chapitre 21 en fait allusion. Maintenant, il y a une promesse dans ces versets aussi, au verset 19, promesse d'une communion éternelle. Le temple de Dieu fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Et en passant, ce n'est pas la seule chose qui a été ouverte dans l'Apocalypse. On voit une porte qui est ouverte dans l'Apocalypse chapitre 4, les sceaux qui ont été ouverts au chapitre 6, le puits de l'abîme au chapitre 9, le temple du témoignage, du tabernacle du témoignage au chapitre 15, le ciel au chapitre 19. Des livres au chapitre 20. Ici, c'est le temple de Dieu. Et on se souvient, au chapitre 11, au début, on commence avec un temple qui est mesuré. Et on termine ici avec le temple de Dieu dans le ciel, qui symbolise les promesses de Dieu à Israël. Cette alliance, ça symbolise aussi l'image qui est présentée, donc le temple, le lieu saint des saints, l'arche de son alliance. Ça, c'est des choses entre nous qui parlent aux Juifs. Ça a une relation entre le peuple d'Israël et l'Éternel. Et Dieu, donc, se sert de ces choses pour parler au peuple d'Israël. Et l'ouverture de ce temple, justement, dans le ciel, où c'est l'endroit de sa présence, symbolise que Dieu a fait alliance et qu'il tient ses promesses. Il est fidèle à ses promesses. L'expiation des péchés a été faite au ciel. Le vrai temple, il est au ciel. Le Saint des Saints a été ouvert. Christ a franchi avec son sang. Son sang a été répandu sur l'autel. Et Dieu invite les croyants, le peuple d'Israël, à voir en Jésus vraiment le Messie qui était venu, le vrai Messie, le seul, l'unique, le souverain sacrificateur. Et ça symbolise donc la communion de Dieu avec son peuple. Le reste d'Israël qui va revenir naturellement, cette nation qui va revenir à Dieu, qui va se convertir dans ce sang versé pour eux. On se souvient, dans le haut du propitiatoire, dans l'arche, entre les deux chérubins, Dieu avait parlé à Moïse. L'arche de Dieu, les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu ne sont pas seulement pour le peuple d'Israël, ils sont pour chacun de nous. Puis le message de cette septième trompette, en fait, c'est que Jésus-Christ est celui qui va régner. Il règne dans le cœur des croyants, de façon invisible. Le royaume, présentement, n'est pas venu de façon à frapper les regards, dit Jésus. Mais un jour, tout genou va fléchir devant lui. Il va prendre des mains du roi, du prince de ce monde, le règne, qui lui appartient de droit. Et puis, il se souvient de toutes les alliances, ces alliances qu'il a faites avec Israël, avec Abraham, la terre promise, les nations qui seront bénies au travers de lui. Les alliances avec David, la postérité de David, le roi qui viendra régner éternellement, Jésus est ce roi. C'est sûr qu'il va apporter le jugement éternel à ceux qui le rejettent. Alors, mon invitation ce matin, c'est dit, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore mis sa confiance au Seigneur Jésus, il ne faut pas tarder. Il ne faut pas remettre à demain. On ne sait pas comment est-ce que demain va être fait. On ne sait pas ce qu'on va être demain. On sait une chose, la parole nous dit, c'est que Jésus règne. C'est que Jésus est venu et il est descendu, il a traversé les cieux pour venir s'offrir en sacrifice pour nos péchés. Et il a promis que tous ceux qui viennent à lui, ils ne les rejettent pas. Il a fait cette promesse, plein de promesses. Il accomplit toutes ses promesses. Et en terminant, ça me fait penser à une chose. On va passer au dernier tableau. Il y avait une femme en France, en parlant des promesses de Dieu. C'était la femme d'un pasteur français. Et puis, elle vivait dans le temps de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, c'était une époque de grand rationnement. Et cette dame-là, elle avait des enfants. Ils avaient des enfants. Et elle avait fait une boîte dans laquelle elle avait mis 200 petits rouleaux de papier dans lesquels contenaient 200 versets de promesses de Dieu. Puis c'était des temps difficiles, comme je disais, des temps de rationnement où ce que leur famille mangeait à cette époque-là, cette période-là, c'était les restes des tables du restaurant du village. Et puis, je sais qu'il y en a qui doivent connaître Serge Plante, de grand-mère, de frère. Son père était allé en France durant la guerre, puis il racontait ça, l'histoire, que c'est vrai que les gens mangeaient les restes des tables, des restaurants, des soldats qui venaient. C'était une époque de rationnement total, il n'y avait rien. Et cette dame-là s'était mise dans la tête, avait fait une boîte dans laquelle elle avait mis 200 promesses de Dieu, contenues sur des petits rouleaux de papier. Et puis, quand ça allait mal, elle pigeait une promesse, puis elle lisait, elle partageait à sa famille, à ses enfants, pour s'encourager, s'appuyer sur les promesses de Dieu. Puis un jour, dans des temps qui étaient très extrêmement difficiles, un jour, un soir, elle pleurait, et puis là, elle s'est dit, je vais aller chercher un rouleau pour lire une promesse, pour s'encourager. Puis elle pleurait tellement que ses larmes étaient aveuglées, puis la boîte n'a pas réussi à la saisir, puis elle est tombée à terre. Puis là, la boîte s'est ouverte. Tous les rouleaux dispersés. Elle a été Elle était comme désolée, mais tout à coup, elle a saisi, elle a compris. Elle s'est mise à sourire. Puis elle a compris dans ce message-là que toutes les promesses de Dieu sont pour ses enfants. Pas seulement qu'une. Toutes les promesses de Dieu sont pour ses enfants. Et ce matin, je veux qu'on soit, en partant, s'encourager à dire que toutes les promesses de Dieu sont pour nous. Et parmi lesquelles, un jour, nous serons avec lui, nous règnerons avec lui. Alors, on va prier, on va se couper en prière, et puis on va se rappeler combien nous sommes privilégiés de connaître le roi des rois. On n'a aucun mérite de le connaître, c'est par grâce qu'on le connaît. Puis on va se courber, on va le prier, on va le louer pour ce roi qui va venir régner sur son royaume. Notre Dieu, nous sommes réconfortés, nous sommes réjouis à l'idée de savoir que de façon certaine, un jour, Jésus va prendre possession du royaume. Malgré tout ce qu'on voit dans ce monde, les gens qui sont tout occupés à toutes sortes de choses, sauf à te louer, nous étions des leurs, nous étions tes ennemis. Un jour, tu dois parler à nos cœurs. Un jour, tu nous as fait rencontrer ton Fils, le Seigneur Jésus. Oh, quel merveilleux sauveur on possède en Jésus-Christ. Quelle merveilleuse promesse aussi on retrouve dans ta parole. Et ce matin, on est vraiment réjouis à l'idée qu'on a en toi le roi de la terre, celui qui contrôle toutes choses, celui qui est tout-puissant, celui qui est souverain, celui qui est éternel, mais en même temps celui qui veut avoir avec nous une relation personnelle. Alors, Seigneur, je te prie que si quelqu'un ici n'a pas encore placé sa confiance en toi, qu'il voit en Jésus le seul chemin qui mène à toi. Seigneur, on te demande, on appelle ta bénédiction sur cette assemblée. Au nom de Jésus. Amen.